Troubadour, festival animé par Gérard Zucchetto. Gérard Zucchetto que nous allons écouter tout de suite dans son interprétation donc, d'un chant des troubadours qui s'appelle Pastornacz.
Provenza e ta Madonna sabù vendei fa piaia cianzù si val per re noi senza ca servì a bunra con chi ero del buon segnur d'une bel face unur chi bel sapere in ca per chi o mendei sforza sel che lunga tendenza plasma fai gran fai su che era nartus libretto una violur prevenza e teu per lunga spera hai conchisa grandu su rubais che forza d'amor me fezza mirun sembla caros lundegna utreia. Faienza sui en buona sus peisù che il maltraccio metù men pru poi sluvestange incumenza e poi ran sen conorta e mi tuz l'autra madù cap sovre sforsi un lavù tracce nel fregio focla e taiga d'ussa e ma.
Pastornacz, c'était un clin d'œil à Michel Cosem, l'éditeur de Encre Vive, qui a publié un texte sur Peyre Vidal, le troubadour Peyre Vidal. Ce texte que vous venez d'entendre, magnifiquement chanté par Gérard Zucchetto, est un texte de ce troubadour Peyre Vidal. Alors nous parlerons plus longuement à une prochaine émission des troubadours ensemble qui s'est constitué au fil des années, autour de cette personnalité extraordinaire de Gérard Zucchetto, qui est chercheur, auteur, compositeur et interprète des troubadours. Je vous invite simplement à regarder sur notre site les-poètes.fr le programme de ce festival des troubadours et de l'art roman qui va se prolonger de la fin de mai à novembre. Vous avez ce programme sur notre site, je vous invite véritablement à le consulter. Alors, vous pouvez également, et vous trouverez sur notre site des références pour vous procurer les CD de Gérard Zucchetto, poète du Sud, avec Sandra Hurtado Ross, et également Performing Troubadour Art Ensemble Lyrica Méditerranéa. Voilà, ces références seront sur notre site. Alors, je vais accueillir tout de suite notre invité. Il s'agit de Roland Nadeau, que je remercie d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Roland Nadeau.
Bonsoir, Christian.
Merci beaucoup. Je sais que votre esprit est peut-être occupé ailleurs et c'est pour nous une grande joie, un grand moment de vous avoir avec nous ici à Radio Occitanie et de vous entendre. Alors, vous êtes dans le paysage poétique français, qui est un paysage abondant, contrairement à l'idée répandue. La poésie se porte bien et les poètes sont nombreux.
Tout à fait.
Et nous sommes ici d'ailleurs pour en témoigner que il y a véritablement un élan de la poésie très important actuellement. Et vous représentez... Alors, toujours, mais je crois que c'est une des caractéristiques du poète en définitive, c'est d'être atypique. Alors, vous êtes atypique parce que vous avez incarné dans votre vie deux passions que l'on pourrait résumer, si vous me le permettez, par un de vos textes, un texte qui a été... publié par Encre Vive, et on retrouve là encore une fois Michel Cozem, dans un recueil qui s'appelle Cla commune, bâti. Cette ville, c'est moi qui l'ai. Cette ville, c'est moi qui l'ai bâti comme elle m'a bâti du dedans au dedans, comme un enfant bâtit son père, bâtit sa mère, en même temps qu'il se bâtit, en même temps qu'il édifie leur amour, ou déjà ses ruines, comme un maçon d'à genoux se dresse, mesure que le mur, remonte, comme un priant épars donné et revit, d'avoir planté prière en terre, ô ma ville vie, planté en moi épée de Dieu, parole en arbre de croix vive. Alors il faut voir dans la disposition de ce poème, ville et vie sont en gras et en croix au niveau du i de ville. Alors ça introduit bien ce que vous êtes, puisque vous avez repris la formule d'Aimé Césaire, créer un poème et créer une ville, c'est un peu la même chose.
Oui, bien sûr, mais je ne veux pas me comparer à Aimé Césaire. Mais par contre, nous avons quelques points de rencontre très forts. Et le premier est un de ces points de rencontre qui sont souvent déniés, qui est le point de rencontre entre la poésie et la politique. Aimé Césaire a été et demeure un grand poète. Et il a été, et n'est plus, un grand élu de la République, un grand élu de la démocratie, un grand militant des droits de l'homme. Voilà. Donc, ce genre d'homme, j'allais dire de personnage, mais là j'aurais pris un mauvais mot, ce genre d'homme, en effet, est de ceux... dans lesquels je retrouverai comme un frère. Et ma vie multiple et parallèle, et multiplement parallèle, si j'ose dire, a été un peu ça, quoi. Alors, je ne veux pas me comparer, mais en effet, je crois vraiment, moi qui ai bâti une ville nouvelle, une des cinq grandes villes nouvelles autour de Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, et Aimé Césaire, qui a complètement transformé sa ville et en a fait une tête de pont très importante, en même temps qu'il faisait une tête de pont de son langage et de la négritude, à quoi on le réduit un peu trop d'ailleurs, ben voilà, oui, je crois en effet que le poète, comme le bâtisseur de ville, prend ses matériaux, dresse un plan, et parfois le plan le dépasse, c'est souvent le cas en poésie, vaut mieux pas que ce soit le cas dans la ville, hein. Mais en effet, il y a un geste commun, et Aimé Césaire a très bien saisi ça, il l'a très bien dit.
Alors Aimé Césaire, qui était maire de Fort-de-France...
Oh, excusez-moi, hein? Christian, je vous entends très mal.
Aimé Césaire, qui était maire de Fort-de-France,
oui,
et député de la Martinique.
Oui.
Il était non inscrit d'ailleurs, enfin apparenté au Parti Socialiste, je crois, oui, apparenté au Parti Socialiste. Alors, il faut dire que vous, Roland Nadeau, vous avez été donc, professeur d'histoire dans le civil, hein, en collège, maire de Guyancourt, dans les Yvelines, de 1983 à 2002.
Oui.
Et ensuite, président donc, de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, hein,
oui,
dont vous voulez de parler, de 1989 à 1998, également conseiller général des Yvelines, de 1995 à 2008. Donc on peut dire que... en dehors de votre activité littéraire, poétique, vous êtes un homme d'action au sens exact du terme, hein, puisque...
Bah, écoutez, je vais vous répondre de deux façons inversées. Premièrement, en effet, une de mes vies, apparemment contradictoire avec l'autre, a été la vie politique. Mais je ne suis pas venu pour ça. Oui. Moi, quand j'ai pris conscience de moi-même, c'est-à-dire à l'adolescence, disons, je me suis dit que j'étais venu au monde pour être poète. Et puis, venant d'un monde très dur, où aujourd'hui je me regarde avec horreur dans ce qui se passe avec les migrants, et je me dis, tu viens de là toi aussi, autrement, bien sûr, dans d'autres circonstances, et donc ça m'a lancé dans une autre orientation, et les deux n'ont cessé de se combattre et de se nourrir. Comme le disait Edmond Humeau, ce grand poète que j'ai connu à la Tour de Feu quand j'étais adolescent, oui, la contradiction, c'est la vie. Quand il n'y a, oui, plus de contradiction, c'est la mort. Et donc cette contradiction a été parfois positive, parfois négative. En tout cas, si je veux résumer pour ne pas embêter nos auditeurs... sans la poésie, je n'aurais pas supporté la politique. Et sans la politique, je n'aurais peut-être pas continué à écrire de la poésie. Des romans, oui, j'en ai écrit aussi, des pamphlets, des... Oui, mais de la poésie, peut-être pas. C'est-à-dire qu'il y a là une nourriture commune qui est extrêmement forte.
Vous avez une très belle phrase, vous dites « la poésie m'a sauvé de la politique ».
Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. J'ai dit ça je ne sais plus quand, je crois que c'était lors d'une interview dans un journal qui ne m'était pas favorable, et je crois que je l'ai reprise, cette phrase, un peu plus tard, mais c'est vrai. Je suis entré en politique après un long chemin, un long cheminement, d'abord dans dans des mouvements d'éducation populaire, militant de l'enfance, puis syndicaliste, mais je n'envisageais absolument pas, à l'époque, et pendant longtemps, d'avoir les responsabilités que j'ai eues, qui ont été, on va dire, localement, départementalement, régionalement importantes, et même pour certaines nationales, mais c'était pas mon truc, hein. Je partais sur des idées simples, de justice, de fraternité, de culture, d'amour de la langue, et des langues d'ailleurs, pas seulement de la langue, mais des langues, de leur histoire, de l'envie de devenir moi aussi un artiste, un créateur, voilà. Et puis alors la vie politique m'a rattrapé, parce que lorsqu'on est dans un territoire ancien qui devient d'un seul coup une grande agglomération, pensez que là où je fus maire et élu départemental et président d'agglomération, on est passé de 1000 habitants à 250 000 en une génération, en 35 ans, 40 ans maximum. Et donc tout cela aurait pu m'étouffer. Et puis j'avais une idée un peu folle de l'humanité. Mais cette idée, je l'ai retrouvée dans... Récemment, on en parlait avec Michel Baglin, par exemple, oui. Que vous connaissez bien,
oui,
je crois.
Bien sûr, oui.
Cette idée un peu folle que nous sommes d'abord des humains humanistes, qu'on soit croyant ou pas croyant, etc. Et alors, cette idée-là, moi je la portais à incandescence avec la poésie. Voilà. Il y avait derrière Baudelaire, Rimbaud, bien sûr Saint-Paul-Roux, enfin quelques autres. Et la politique, de ce point de vue-là, dans les tout débuts, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître, c'était pour moi une façon de vivre poétiquement l'existence quotidienne. Et puis, j'ai découvert, à mesure que venaient les responsabilités, les élections, la gestion, qui est une chose très difficile, il n'y avait pas que des poètes. Et figurez-vous, j'en termine là pour cet instant, que j'ai découvert beaucoup plus tardivement que dans le petit monde poétique, ça n'était pas tellement mieux.
Vous m'étonnez. Alors, oui. Je crois que, en définitive...
Christian, je vous entends mal.
Ah, vous m'entendez mieux là, maintenant ?
Oui.
Bon. Alors, je crois que vous les illustrez aussi, peut-être, une idée répandue du poète comme poète éthéré, qui est une idée fausse. Hein. Alors vous, c'est bien parce que votre cas s'inscrit en contre-exemple de ce préjugé du poète qui est cette espèce de d'être marginal, dévoré par ses démons. Alors que c'est pas ça du tout. Le poète est au contraire celui qui est impliqué dans le sens de la vie, comme vous dites, par des préoccupations qui sont avant tout des préoccupations humanistes. Et je crois que tous les poètes qui sont passés ici à notre émission, les poètes, ont un trait commun. C'est celui, justement, de s'inscrire dans cette mouvance, de dire que le propre de la poésie, quelles que soient les difficultés de la vie, c'est de louer le monde, d'en voir la beauté et d'en dire la beauté malgré toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde, et que la poésie a cette mission à accomplir. C'est donc que la poésie aide à vivre au sens le plus pratique du terme. Et un poète qui s'implique, moi, dans la vie politique, je trouve ça formidable, parce que c'est quand même drôlement difficile. Et,
oui,
c'est plutôt rassurant,
c'est
plutôt
une
rassurant.
Question, hein, parce
c'est
que,
plutôt rassurant, oui.
Comment vous dire, la poésie engagée, entre guillemets, comme on a dit, à un certain moment, a donné de grands poèmes, notamment dans la Résistance.
Oui, oui, oui. Oui, il est...
Mais en même temps, engagée, elle a donné des gages de servilité à telle ou telle idéologie.
Il y a eu des odes à Staline.
Bien sûr.
Oui.
Est-ce que vous me permettez de vous répondre en vous lisant un très vieux texte que j'ai écrit et qui s'appelle « Extrait de la petite Genèse ».
On vous écoute.
C'est une façon de répondre quand on me pose cette question que vous me posez, mais là vous me la posez avec une certaine pertinence particulière. Alors je vous le lis, si vous permettez.
Je vous écoute, bien sûr.
Et ce jour-là, Dieu le Verbe prit de la fine poudre d'argile qu'on nommait kaolin, et il fit un homme blanc. Et il vit que cela était bon. Alors Dieu dit, faisons un homme noir, à l'image du blanc, selon sa ressemblance, afin qu'il soit son frère d'ombre. Et Dieu prit une poignée de tourbe, et Dieu fit comme il avait dit, et il vit que c'était bon. Dieu dit, il n'est pas sain que ces deux-là soient seuls. Je veux leur faire un autre frère de couleur, afin qu'ils apprennent à me connaître sous toutes mes formes et apparences. Et il façonna une motte de leus qu'il prit sur les bords du fleuve jaune et il lui insuffla dans ses narines une haleine de vie et il vit que cela était bon. Alors, Dieu fit tomber une torpeur sur ces trois créatures et, pour leur faire une bonne surprise à leur réveil, il décida de leur donner un quatrième frère de couleur rouge. Et il prit un peu de marne en ses mains, d'où naquit l'Indien. Et Dieu vit que cela aussi était bon. À leur réveil, les quatre frères commencèrent à se chamailler. Et Dieu, en sa bonté, décida de leur offrir un autre être encore, afin qu'ils puissent apaiser sur celui-ci leur colère, et faisant un mélange des restes de kaolin, de tourbe, de leus et de marne, il créa le juif. Et il vit que cela était bon, car les quatre frères ne se disputaient plus entre eux, mais passaient fraternellement leur éternité à bâtir des pièges et à inventer des tortures pour que le juif y succombe. Alors, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici qu'il décida de chômer un peu. Et il s'endormit. Et il vit que cela aussi était très bon. À son réveil, Dieu dit, mon œuvre sent la merde. L'homme aurait donc été capable d'inventer quelque chose tout seul. Et c'était vrai. Ces cinq créatures avaient tant et tant desséqué pendant son sommeil que le paradis n'était plus qu'une gigantesque latrine. Alors, Dieu prit entre ses mains toute cette merde humaine et il en modela le poète. Et il vit que c'était bon, que c'était même le meilleur parce que, enfin, la matière allait redevenir verbe.
Genèse, qui est un texte qui a été repris dans l'anthologie « Vivre quand même parce que c'est comme ça
oui. »
aux éditions Gros Texte, avec une très belle préface. Et je crois que ce texte, en définitive, illustre la vérité de cette préface qui explique bien, d'abord, votre démarche, je trouve, de Jacques Fournier, et qui fait apparaître les principales, comment dirais-je, les thèmes, si on peut dire, préoccupations donc de Roland Nadeau. Il y a d'abord la préoccupation de Dieu. Il parle même de la préoccupation de ce que vous appelez la merde. Hein dans l'ensemble de votre œuvre, et bien entendu cet humanisme, cette recherche de la fraternité humaine, de l'harmonie, comment on peut arriver à l'harmonie. Et vous dites dans cette préface, Jacques Fournier dit l'homme n'est que poète, en parlant de vous. Il n'est que cela, et cela avant tout, qu'il écrive un roman, un essai, un pamphlet politique, un conte pour enfants ou un poème. Il ne sait être que poète, pleinement, totalement, du premier au dernier mot, c'est-à-dire, si l'on peut tenter de définir l'indéfinissable, qu'il a vraiment quelque chose à dire, qu'il y a en filigrane de l'œuvre, ou comme autant de balises, si l'on préfère, des récurrences, pour ne pas dire des obsessions. Voilà, c'était le mot que j'aurais dû employer tout à l'heure. Je n'ai pas osé, mais j'aurais dû. Voilà. Donc, il y a la mort aussi parmi ces obsessions.
Oui.
Hein?
Alors, vous m'interrogez sur mes obsessions.
Voilà, oui.
Bon, alors, d'abord, je vais d'abord vous répondre...
Sur cette si anthologie qui me paraît très, très bien.
Sur une obsession de colère.
Oui.
Puisque vous citez Jacques Fournier qui a été mon préfacier et qui a été le directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines, à Guyancourt, dans ma ville dont j'étais maire à l'époque. Cette maison, à la suite d'un renversement politique municipal, non pas local, parce que Guyancourt est resté Guyancourt, heureusement, mais de la communauté d'agglomération qui aujourd'hui fait 250 000 habitants, comme je vous le disais. À une voix près, cette maison de la poésie a été fermée, monsieur.
Oui.
Et cher ami, et cher camarade ami poète.
Et elle avait été inaugurée par Jean Rousselot. On en parle.
Elle avait été inaugurée, alors j'espère que nous parlerons quelques instants.
Oui, de Jean Rousselot, tout à fait.
Elle avait en effet été inaugurée, et la date n'est pas innocente, hein. Christian.
Oui.
Elle a été inaugurée le 14 février 2002.
Oui.
Le 14 février, c'est la Saint-Valentin.
Oui.
Et ce jour-là, elle a été inaugurée par la ministre de l'époque, Catherine Tasca.
Oui.
En présence de tout le gratin régional, yvelinois, versaillais, etc. Alors que moi, je suis plutôt du non-gratin des jardins ouvriers, vous voyez, mais... Bon, en tout cas, voilà. Et Jean Rousselot était là. Il a inauguré la médiathèque qui porte son nom.
Oui.
Qui est toujours une très grande médiathèque. Mon épouse, à l'instant, m'écrit sous un poème... Et Lise London, oui, Lise London était présente, car Lise a été aussi très importante dans tout ce cheminement. Donc, cette médiathèque Jean Rousselot a été inaugurée en même temps que la Maison de la Poésie et une galerie de peinture qui existe encore. Ça a fonctionné, et nous étions, si vous me permettez 30 secondes, la seule collectivité publique a géré directement une maison de la poésie. La plupart des autres Non, avec Paris, pardon. Oui. J'en ai parlé avec, à l'époque, le directeur de cabinet de Madame Chirac, qui est décédé depuis, la seule avec la maison de Paris. Mais la plupart des autres sont gérés par des associations et qui souffrent terriblement. Hein. Je pense à la maison de Quimperlé, je pense à tant d'autres qui en ce moment souffrent de ce retrait ignominieux de la vie culturelle par les institutions et par beaucoup de politiques et malheureusement de plusieurs bords, y compris de celui auquel je m'attache encore un peu, parce qu'à mon âge, on s'attache encore à son port d'attache de jeunesse. Et donc, cette maison de la poésie, eh bien, au bout de 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus, de service, non seulement dans la maison, mais autour, avec chaque année entre 3500 et 5000 personnes qui la fréquentaient directement ou hors les murs, a été fermée parce que une nouvelle majorité politique est venue là. Alors, je vous l'avoue, sans jouer un lyrisme d'escargot, là, aujourd'hui, je suis revenu dans ma ville pour des raisons, disons, médicales, et passant devant cette maison de la poésie, qui est maintenant fermée, ben, je vous avoue que j'ai pleuré, quoi. Hein. On peut bien le dire, quand même. Hein. Voilà.
Je vous comprends. Nous, à Toulouse, nous n'avons pas ce risque, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de maison de la poésie à Toulouse. Quand on en avait exprimé le besoin, il y a quelques années, l'élu de la culture de l'époque m'avait répondu « Il faut que vous en démontriez les besoins. »
Ben voyons.
Voilà. Voilà.
Oui, c'est... Alors, pour revenir à Jean Rousseau.
Oui. Alors, Jean...
Parce que Jean oui. a été votre préfacier.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et vous l'avez connu, oui. Vous avez bon échangé.
Oui, tout à fait.
Bon.
Tout à fait.
Eh bien... le jour de l'inauguration, Jean était déjà très très malade.
Oui.
Et pour qu'il n'y ait pas de problème, j'étais maire à l'époque, hein, j'étais encore maire à l'époque, on avait, sans le lui dire, c'est une anecdote, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Nous avions mis en œuvre deux ambulances avec réanimation, oxygène, etc. Et comme Lise London, cette grande, immense résistante, l'accompagnait, et que le bâtiment était un nouveau bâtiment, tout était prêt, on pensait que ça se passerait bien... il y avait évidemment le préfet, la ministre, le maire de Versailles, enfin je vous passe tout le gratin, quoi. Hein. Et ils sont montés dans l'ascenseur, tous les deux, avec un accompagnement de la ville, évidemment. Et comme c'était un... J'en ris aujourd'hui, mais je devrais pas. Comme c'était un bâtiment nouveau, l'ascenseur est tombé en panne entre deux étages. Vous imaginez le truc, parce que moi je savais que Jean Rousseau souffrait vraiment, quoi, hein, et on lui avait rien dit. Et puis finalement, allez, ça s'est bien passé, mais c'est un petit souvenir. Moi j'ai connu Jean bien avant et bien après. Enfin, malheureusement, non, parce que on a inauguré la maison de la poésie et la médiathèque qui porte son nom le 14 février 2002, et malheureusement, le 24 mai 2004, juste après qu'on lui ait fêté son anniversaire, il décédait, quoi.
Mmh. Ouais.
Ouais. Et vous l'avez bien connu aussi.
Alors, j'ai bien connu, oui, Jean Rousseau. J'ai bien connu Jean Rousseau. C'était un homme... inoubliable. Hein. Et il avait une obsession, dont on peut parler peut-être aussi.
Allez-y, c'était je vous que, la
oui, là vous m'entendez mieux là, pardon.
Oui.
Il avait une obsession, c'est que il était persuadé que il avait une œuvre quand même, qui était une œuvre assez considérable. C'est-à-dire qu'il avait énormément travaillé.
Oui.
Toute sa vie, il n'avait fait que travailler. Je me souviens d'avoir dîné avec lui et bon, moi, j'étais content de l'amener dans des restaurants ici à Toulouse, par exemple, où on mangeait du cassoulet, etc. Et puis il m'a dit, mais je m'en fous.
Oh oui, il y avait beaucoup de fourchettes. Hein.
Ouais. Mais il s'en moquait complètement. Je veux dire, c'était pas sa préoccupation quand même.
Non.
Voilà. Et il avait cette idée. Par exemple, je lui parlais de René Guicadou, qui était mort à 31 ans, qui a laissé une œuvre qui, elle, persiste, hein, qui est connue, qui va maintenant dans l'universalité, qui est totalement reconnue. Et lui avait peur qu'il me dise, mais moi, quand je vais disparaître, le risque, c'est que tout ça va disparaître aussi.
Oui.
Ouais.
Et bien.
Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment, il faut que nous intervenions, parce que c'est de notre responsabilité, ensuite, de faire connaître ces gens-là et de dire, attention, là, il y a des paroles qu'il faut conserver. Il faut conserver ça.
Alors, écoutez...
Et c'est vrai pour combien de poètes
Jean, il était déjà très âgé. Je ne sais plus quand, à vrai dire. Je me souviens seulement qu'il a corrigé un de mes recueils qui s'appelle Guérir par les mots, voilà, avant que ce soit publié. On est devenu très 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 très, très proches. Et quand il s'est agi de donner le nom à une nouvelle médiathèque, moi j'étais encore à l'époque en fonction élective importante, j'ai proposé son nom. Ça n'a pas été si simple que ça, mais comme j'avais quelque autorité, ça a été suivi. Et du coup, les gens ont découvert Jean Rousselot.
Oui.
On a organisé, avec Christophe Dauphin, une très belle exposition. La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a financé, je ne sais ce qu'il est devenu, j'espère qu'il est encore existant, un film sur la vie de Jean Rousselot. Et puis, nous nous sommes découverts peu à peu, parce que nous avions des traits communs. Il avait été trotskiste, je le fus dans ma toute petite jeunesse. Il avait été résistant, moi non, évidemment, mais mon grand-père, oui. Enfin, etc., etc., je vous passe tout ça. Voilà. Et puis alors, autre anecdote, à la suite de nos premières rencontres, ça doit remonter à 20-25 ans facilement, il m'avait dédicacé plusieurs livres de lui. Je n'avais lu que quelque chose, évidemment son dictionnaire des poètes chez Larousse, etc., et quelques-unes de ses œuvres. Et figurez-vous, Christian, je me suis fait voler ma mallette dans laquelle je revenais de son domicile, dans les Yvelines, donc pas très loin de chez moi. Je me suis fait voler les trucs dédicacés. Aujourd'hui encore, j'en ai mal, et je ne lui ai avoué ça que quelques jours avant sa mort, en lui disant, Jean, excuse-moi, voilà. Mais c'est d'abord un personnage.
Oui.
Un personnage. Il a été commissaire de police, ce type.
Oui.
Après avoir été trotskiste.
Oui.
Commissaire de police, fabricant des faux papiers, pour aider des résistants, pour aider des juifs, etc.
Oui.
Il a été un militant très, très, très actif des écrivains, au point de présider la Société des gens de lettres, et de parcourir une grande partie du monde à travers tout ça, et de découvrir au passage que l'URSS n'était pas tellement celle que finalement, à laquelle il croyait. Et puis j'ai trouvé...
Traduisant les poètes du pays de l'Est aussi, il a traduit...
Oui, un homme de l'Est.
C'est extraordinaire.
Et alors bon, je ne parle pas des travaux alimentaires qu'il a fait sur les... avec beaucoup de talent d'ailleurs, sur les biographies, etc. Mais un poète qui a sa voix.
Absolument.
Et puisque vous faisiez allusion à René Guigadou, il a été vraiment, d'après ce que j'ai compris, hein, je ne veux pas jouer les grands biographes, que je ne suis pas, mais il a été vraiment très proche de René Guigadou.
Oui, il était là la nuit de son décès.
Son dernier souffle.
Oui, oui,
et il s'est battu pour lui.
Tout à fait, oui. Il nous a raconté ça. Et il était là la dernière nuit avec Hélène, hein, ils étaient tous les trois.
Oui. Et bien, Christian, vous avez raison. Oui.
Alors, c'est lui qui...
nous aussi.
Oui, c'est ça. Moi, c'est Jean Rousselot qui m'a donné le goût de connaître tous les poètes, parce que je crois que à son époque, il y avait peu de personnages de cette envergure, de poètes de cette envergure, qui s'intéressaient à tout. Et qui connaissait dans les détails tous les poètes. Hein, il avait fait paraître le panorama de la poésie contemporaine chez Segers en livre de poche, ce qui était quand même exceptionnel à cette époque-là.
Oui.
Hein, et il connaissait le moindre poète. Il avait tout lu. Il était capable de s'intéresser de façon très sérieuse à ce qu'on lui présentait. Et il était toujours disponible. Moi, j'animais une revue à l'époque. Il m'a toujours envoyé des textes, toujours.
C'était toujours Florilège, échangé. C'est ça, non?
Comment?
C'était Florilège, votre revue?
Ça a été la première, mais après, ça a été Poésie toute.
Ah oui, oui, d'accord.
Poésie toute, oui. Et il était toujours présent, toujours. Que ce soit au téléphone, par écrit, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Mais il avait cette préscience un peu noire, hein, du fait qu'il dit, bon, ben, moi j'ai énormément travaillé, mais peut-être que ça va pas rester tout ça. Et je pense que ça le chagrinait quand même, parce que il était conscient de ce qu'il avait fait.
Voilà. Oui. Voilà. Alors, ça, je ne sais pas si. Je vous ai envoyé, en pensant à cette émission, des textes qu'il avait écrits, et j'ai découvert, alors, ou redécouvert, mais j'avais oublié, dans un ouvrage posthume qui est paru, je ne sais plus, 2 ans après sa mort, ça s'appelait « Pour la poésie » et c'était dédié à Roland Nadeau.
Oui. Ah oui, 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 oui.
Et j'avais complètement oublié. En fait, il me l'avait écrit manuellement. Et j'y retrouve ce que vous dites. Et que tout le monde corrobore. Une grande attention. Mais ça se fait plus aujourd'hui, Christian, je crains malheureusement. De grands calibres qui sont capables d'écouter des nouveaux, des petits, des gens qui essayent, etc. Et capable de les lire, mais sans les renvoyer avec mépris, au contraire.
Oui, bien sûr.
Et là, Jean, dans ces quelques pages, dit ce qu'il pense de la poésie, et je dois dire que ça m'a beaucoup ému. J'avais oublié, et grâce à vous, j'ai retrouvé, si vous me permettez, je vous en dis 2-3, c'est tout, hein.
Bien sûr.
Celui-ci qu'il a repris d'ailleurs après, la poésie vous paye avec des chèques en bois, mais si généreusement qu'on se sent son obligé. La poésie est inutile comme l'herbe et l'azur. Bon, là il y a d'autres poètes qui ont dit, comme Paul Éluard, la poésie est aussi inutile que l'herbe, mais il dit des choses... bien plus dur. La poésie ne m'a pas fait vivre. Elle a été pourtant, à mes yeux, la seule preuve que j'existe. Eh ben, ça c'est vrai. Et en même temps, tous ceux dont François Huglot, je viens de retrouver son nom à l'instant, le pauvre François, qui ont rencontré Jean, qui lui ont écrit, etc., tous me disent, il nous a écoutés, il nous a entendus, il nous a conseillés, il nous a préfacés, pas si nombreux que ça dont vous êtes, hein, pas si nombreux que ça. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer son... Ah, j'aime pas qu'il... Il aime pas ça, même maintenant qu'il est mort. Le peintre Levig, dont qui a illustré nombre de recueils de Jean Rousselot, qui est un grand peintre, qui commence aujourd'hui à sortir, mais comme on sort de cet homme, vous voyez, hein, c'est-à-dire que une fois que la résurrection arrive, on vous dit « Oh, vous êtes divin !» mais tant que vous êtes enterré, on vous ignore. Et Levig, Jean-Marie Levig, qui a été son... Ah, il n'aimerait pas que je dise ça, mais son fils spirituel cependant, m'a parlé de Jean avec cette générosité et en même temps cette ambiguïté d'un grand séducteur. Mmh. Non grand séducteur de femmes, ça c'est sûr, on le sait, hein, mais grand séducteur aussi dans la vie sociale.
Tout à fait.
Et j'ai une grande tendresse pour cet homme. C'est pourquoi j'ai proposé à l'époque à mon conseil municipal et au conseil d'agglomération, qui n'en avait rien à foutre pour la plupart du nom d'un poète, que cette grande médiathèque, qui est une des plus grandes d'Île-de-France aujourd'hui, porte le nom de Jean Rousselot.
Et bien vous avez voilà, ça, hein.
Quand j'ai découvert que vous aviez été préfacé par lui, eh bien je me suis précipité sur votre recueil.
Oui, oui. Alors, le problème, c'est que l'heure tourne, et je voudrais...
Christian, je vous entends mal à nouveau.
L'heure tourne, et je voudrais, parce que nous allons devoir rendre l'antenne dans 8 minutes, oui. Je voudrais, si vous le voulez bien, que vous nous lisiez de la poésie par les simples, qui est dans cette anthologie gros texte, Vivre quand même, parce que c'est comme ça. C'est à la page 63. Est-ce que vous pourriez nous lire ça, s'il vous plaît?
Alors, le problème, c'est que je crois bien que c'est le seul recueil que je n'ai pas sous la main.
Alors, écoutez...
Alors, attendez, si c'est si dans l'anthologie,
oui.
Je dois la trouver...
Vous parlez de la poésie.
Alors, j'avais écrit la poésie par les simples, et Jean, en effet, à l'époque, m'a aidé, m'a corrigé certains textes. Alors, la poésie par les simples, c'est, comment dire, une série de poèmes en prose qui ressemblent aux notices que vous ouvrez lorsque vous prenez un médicament.
Voilà.
Hein, c'est-à-dire que, d'un seul coup, vous prenez un truc contre la tension, contre le diabète, contre oui. ceci, contre la prostate... au contraire, et puis paf, vous avez plein d'indications, et alors surtout, quand vous prenez ce genre de choses comme des compléments alimentaires, là, on vous met en garde, voilà, alors donc, je viens de le retrouver, et donc, je vois pourquoi vous me demandez ça, je dis pas que vous êtes vicieux, hein, mais... bon, je vous dis quand même que ça m'a pas valu que des amis, d'accord?
On écoute.
Alors, on y va. De la poésie par les simples. Les simples étant les herbes, hein, bon. La poésie, traitement du mal par le beau, est une thérapeutique millénaire, indistinctement utilisé par les derniers premiers hommes que par le dernier des derniers. Outre son aspect médico-sociétal, la poésie prend une dimension cosmique à travers différentes pratiques, religieuses ou magiques, mais aussi en tant qu'élément de la vie quotidienne. Don du cierre ou de la tielle, selon la posture ontologique de chacun. symbole de régénération autant que de fermentation autistique, manifestation de l'énergie créative, la poésie est partie intégrante de notre environnement surnaturellement réaliste. Il y a, en effet, dans la poésie, des ressources que l'homme ne peut puiser ailleurs que dans la femme. Avec l'avènement des néo-postmodernes, l'homme a fait de grands progrès dans la non-connaissance des non-lois esthétiques. La médecine artistique s'est ainsi développée dans une certaine forme de non-pensée, manon-tropo-pensée, amenant à de réels méfaits à l'humanité, manon-tropo-souffrante. Le petit bourgeoisisme enculatro-fellationnel a pu ainsi développer ses tentes accues totalitaires. De nombreuses thérapeutiques empirico-révélées, en particulier l'utilisation des simples, disparurent de l'enseignement officiel et ne se transmettaient plus que par la persévérance de certains praticiens du langage, convaincus du bien fondé de ces techniques d'amour qu'on nomme poème. Grâce à la non-demande d'un non-public, non déçu parce qu'il ne connaissait pas, mais grâce à quelques belles approches revuistes, j'ajouterais radioistes, la poésie, médecine par les simples, tend à retrouver la place qu'elle mérite dans le traitement des maladies d'être et la prévention des furaculoses existentielles. Mais, en conclusion, le principal reproche qu'on puisse adresser à la poésie, ceux des poètes.
Alors, malheureusement, il nous reste que 2 minutes. Si vous voulez bien, alors on va, pour terminer, on va. Quels sont les livres de Roland Nadeau que vous souhaiteriez? Alors, il y a Un cadastre d'enfance et quelques-unes de ses parcelles qui est aux éditions Henri. Il y a pour le réal lyrisme aux éditions Corpus dans la collection L'Art du mot. Il y a L'homme que tuèrent les mouches chez Gaïa, c'est un roman. Et puis il y a cette anthologie Grotexte dont j'ai déjà parlé, Vivre quand même, parce que c'est comme ça. Je vous propose, Roland Nadeau, de faire une deuxième émission, Roland Nadeau, qui sera plus spécialement consacrée quand même à la lecture de ces textes et des poèmes. Hein. Donc on peut prendre rendez-vous pour une prochaine émission, parce que je voudrais faire entendre quand même cette voix. Ou bien peut-être, moi je lirai des textes de vos différents livres, de manière à ce que on entende mieux le souffle poétique de Roland Nadeau. Je rappelle que vous avez quand même eu le prix international de poésie Antonio Vicaro, décerné lors du marché de la poésie de Paris, qui est en relation avec le Festival international de Trois-Rivières au Québec, dont vous avez été l'invité. Que vous avez été décerné Grand Prix de l'Académie de Versailles d'Île-de-France pour l'ensemble de votre œuvre. Vous êtes officier des Arts et Lettres, chevalier de Légion d'honneur, officier des Palmes académiques.
Et je suis aussi, Christian, abonné au GAZ, à l'électricité et à Internet.
Oui. Alors, c'était un régal de vous avoir sur cette antenne, Roland Nadeau, mais si vous le voulez bien, nous reprendrons rendez-vous, parce que j'ai un sentiment vraiment d'incomplétude à la suite de cette émission. On a à peine effleuré le sujet. Alors je voudrais le poursuivre, parce que, comme dit une certaine publicité, vous le valez bien.
Non, merci, vous êtes... voilà, je vous embrasse fraternellement.
Moi aussi, moi aussi. Voilà, alors à très bientôt.
Alors à bientôt.
Et vous trouverez bien entendu toutes les coordonnées des ouvrages de Roland Nadeau sur notre site les-poètes.fr, également avec le compte-rendu de cette émission qui sera fait puisque cette émission sera en ligne. Au revoir Roland Nadeau.
Au revoir.
À très bientôt.
Et merci, à très bientôt.
À très bientôt. Claude et moi, nous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.
Ce sont de drôles de types qui regardent